Joël Dicker, bonjour.
Bonjour.
Un animal sauvage, c'est votre nouveau roman chez Rosie Wolf, votre maison d'édition d'ailleurs, en l'occurrence. Alors, c'est un thriller psychologique, c'est un thriller, évidemment, comme tous vos livres, Joël Dicker, on est accro, on va jusqu'au bout, même si on n'a pas le temps, on prend le temps de lire et on veut savoir la fin, c'est ça, vous nous tenez en haleine à chaque roman. Alors, celui-ci est un peu différent parce que, enfin, différent... Peut-être, parce que c'est un thriller psychologique, il n'y a pas de meurtre, mais il y a tout un, je vais dire, une étude des personnages selon leur comportement, selon leur envie, leur métier aussi, et énormément de rebondissements. Et ça, c'est ce qu'on aime.
Oui, c'est un roman à la fois très différent à tous les précédents, similaire aussi parce qu'on retrouve un univers, on retrouve cette ambiance qui est une ambiance qui tourne autour des personnages. On retrouve un fait divers qui est marquant, qui est un braquage. Il n'y a pas de meurtre, c'est vrai. C'est un braquage. Ce braquage va être le fil rouge de ce livre. Et en même temps, ce livre, comme les précédents, il est surtout centré sur les personnages, sur l'histoire de deux couples et d'un cinquième homme. Le couple qui est celui de Arpad et de Sophie, qui a l'air parfait dans les apparences. Le couple de Greg et de Karine, les voisins qui admirent et qui sont obsédés presque par leurs voisins Arpad et Sophie, et cet homme qui surgit au milieu de tout ça, qui surgit du passé, fauve, tout ça sur fond de braquage. Je ne vous en dis pas plus, mais donc on est dans quelque chose, voilà, on est dans un univers un peu différent. On est à Genève, en Suisse, chez moi, et on est en même temps dans quelque chose de familier pour ceux qui me lisent, parce qu'on est dans un livre qui va de surprise en surprise jusqu'à la surprise finale.
Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allées et venues dans le passé, il y a des flashbacks pour comprendre un peu le cheminement des personnages et pourquoi ils sont arrivés à ce stade-là. Il y a aussi les non-dits, les mensonges, les trahisons, l'envie. Il y a énormément de fils rouges qui sont tissés au fur et à mesure de l'histoire. Et moi, ce qui était intéressant, c'est que d'abord... C'est se dire, quand on a une situation familiale impeccable, qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'autre chose, finalement ?
Mais on a toujours envie de quelque chose d'autre.
Quand on a tout.
Quand on a tout ou quand on n'a pas tout, et quoi qu'on ait, on a toujours envie de quelque chose. Je crois que c'est un réflexe très naturel, très humain, parce que c'est quelque chose qui nous stimule, qui nous guide, qui nous emmène. On n'aime pas se contenter de ce qu'on a. Parce que c'est une manière de vivre plus fort, je crois. Parce que c'est une manière de vaincre ou de combattre notre condition de mortel en se disant, je ne me contente pas, je ne me résigne pas, je veux l'étape suivante. Mais l'étape suivante, elle est tout et elle est rien. Parce que vous avez des gens qui rêvent d'avoir absolument tout et d'autres qui ont absolument tout et qui disent, ah, je rêve d'avoir plus rien. On n'est jamais content de ce qu'on est, et c'est notre réalité.
Il y a l'obsession aussi, l'obsession, être obsédé par une personne. Ben, on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux, parfois on va voir 50 000 fois le même compte parce qu'on se dit, ah ben tiens, la vie est belle, ou ceci ou cela. On va observer, quelque part on est des voyeurs, comme un de vos personnages fait, va épier dans la forêt cette maison de verre, on peut quand même le dire parce qu'il y a la maison de verre et puis il y a les verrues, c'est deux endroits différents à quelques centaines de mètres, hein, tout simplement, et ça le lecteur va comprendre pourquoi il y a cette proximité. Et il y a cet espionnage finalement qui fait partie de nos vies, que ce soit sur les réseaux sociaux, quelque part, parce qu'on est derrière son écran, ou dans la vraie vie, aller espionner quelqu'un à la fenêtre.
Mais c'est vrai ce que vous dites. On est dans un monde où les réseaux sociaux
sont
des petites fenêtres dans lesquelles ils nous mettent en position de voyeur, dans lesquelles ils nous poussent aussi à nous montrer. Et ça me frappe, et je suis sûr que ça vous est arrivé aussi. Vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps, mais que vous n'avez pas vu depuis très longtemps, mais dont vous savez tout parce que vous le suivez sur les réseaux sociaux. Et vous avez suivi les enfants, les anniversaires des enfants, les vacances ici, les vacances là, et vous savez tout de cette personne. Vous étiez dans son intimité, vous étiez chez elle, vous étiez en vacances avec elle, et pourtant vous ne l'avez pas vue vraiment depuis des années. Elle ne vous l'a pas raconté, vous l'avez observée par cette fenêtre du téléphone portable. Et ça nous met dans une position très particulière. Parce que des fois, on a presque honte de le dire, mais pourtant, parce qu'on se sent en voyage, on a envie de dire « Ah, mais je t'ai vu ici » ou « Comment étaient tes vacances là ?» Et c'est spontané presque, ouais. Parce qu'on a envie de partager ce qu'on a vu. On se sent un peu voyeur, mais en même temps, si on l'a vu, c'est parce qu'on nous l'a montré. Cette personne nous l'a montré sciemment. Donc il y a ce jeu de rôle-là un peu particulier qui fait qu'aujourd'hui, on est tous, à un moment donné, par ce biais-là, par le biais de notre téléphone, dans une position de voyeur ou de rendre les gens voyeurs.
Alors, on ne va pas trop dévoiler, mais il y a un ouvrage dont vous parlez dans le livre qui m'a beaucoup intéressée. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'il existe vraiment cet ouvrage-là, ancien ? Est-ce que cette histoire existe ? Je ne sais pas si on peut citer le nom. En tout cas, moi, j'ai regardé sur Internet, je n'ai rien trouvé. Donc, c'est l'imaginaire de Joël Dicker ?
Mais oui, il n'existe pas du tout. C'est le plaisir de créer de
A à Z. On y croit.
Ben, merci. Ce livre-là, qui est un livre apparemment écrit par un écrivain italien qui raconte la vie d'un petit village en Toscane, est une invention. Complète.
Ah ben bravo, parce
merci.
Que moi, j'y ai cru.
Merci. Et ça m'amusait. Mais pourquoi ? Je ne sais pas, parce que ça m'amusait de mettre un livre dans le livre. Je crois que c'est toujours ça. Ça me plaît de jouer aussi avec ces frontières très minces de la réalité de notre monde et la réalité du roman.
Alors, ce qui est bien aussi dans ce roman, c'est que les dialogues, on a l'impression qu'ils ont un peu changé par rapport à l'affaire Harry Kéber. C'est-à-dire qu'ils sont plus accessibles, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que on y va, quoi. Donc, s'il y a un gros mot qui doit sortir, s'il y a une engueulade qui doit se faire, vous y allez. En fait, c'est la vraie vie. C'est comme ça qu'on est, je vais dire, dans l'intimité. On envoie bouler les gens, enfin voilà. Et c'est vrai, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est parce que tout est tellement réel dans cette histoire, tout est tellement presque un quotidien normal. Et même, parce qu'en réfléchissant, je me disais, mais oui, mais les braqueurs, même quand ils sont bien, qui ont de l'argent, ou enfin qui n'ont pas de raison de braquer, c'est l'adrénaline qui recherche. Mmh. Et ça existe, ça.
Oui, il y a quelque chose... Enfin, je ne suis moi-même pas un braqueur, mais il me semble qu'il y a quelque chose de ça qui est très fort aussi. Hein. Ce moment-là, la force du moment, la force de l'adrénaline, est un moment qui est aussi un moment qui pousse. Et dans le roman, et j'en dis pas plus, il y a un côté complètement lié à ça aussi. C'est-à-dire une pulsion contre laquelle on ne peut absolument rien.
Vos personnages, vous les avez pêchés ou dans votre imaginaire, bien sûr, mais c'est aussi... En observant la vie à Genève, les gens qui ont un certain niveau de vie, etc. Parce qu'on le sait tous, Genève quand même est une ville où il y a des beaux quartiers chics. D'ailleurs, c'est là où se passe une partie de l'intrigue. C'est en observant vos compatriotes.
Non, c'est une histoire qui, effectivement, se situe à Genève, mais qui, je crois, est très universelle. La même histoire pourrait se passer à Bruxelles, à Paris, à Londres, à New York, à Buenos Aires, à Tokyo, à Rio, je ne sais où. C'est une histoire d'humanité, d'humain, de couple. Et Genève est vraiment là le décor. Et j'étais heureux de la situer chez moi. Genève, où je suis né, où je vis toujours. Mais les personnages que je raconte, je crois que mes lecteurs dans le monde entier auront l'impression que ça pourrait être eux ou des gens qu'ils connaissent. C'est ça aussi le jeu du roman, c'est d'être dans une réalité qui paraît presque proche.
Ma dernière question, Joël Dicker. Vous avez fait les boîtes de nuit à Saint-Tropez ? Il y en a quelques-unes.
Non, je n'ai pas fait les boîtes de nuit à Saint-Tropez. Il y a effectivement une petite partie du livre qui se situe à Saint-Tropez sur la côte parce que c'est un lieu qui a un lien un peu direct avec Genève. Les Genevois vont beaucoup en vacances dans le sud de la France. Pour une raison très simple, c'est que c'est vraiment à côté.
Oui.
On est en voiture à 5 heures de route et donc les gens vont très souvent et très facilement en vacances là. Donc c'est un lieu qui revient souvent pour les Genevois et je trouvais qu'il y avait une cohérence dans l'histoire de placer ça là. Mais je suis allé à Saint-Tropez, je connais un peu, mais comme beaucoup de gens qui peuvent très facilement s'y rendre, mais c'était surtout la raison de l'attache avec le sud de la France, c'est cette proximité, pas immédiate, mais dans les faits, avec Genève et la Suisse.
Merci beaucoup pour ce roman très prenant, avec des personnages absolument attachants, une histoire folle finalement, des dénouements, des rebondissements comme vous savez le faire. Ça s'appelle Un animal sauvage et c'est chez Rosie Wolf et ça vient de sortir. Merci Joël.
Merci à vous.